Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
C'est une surprise. Hier, l'Académie suédoise a choisi de récompenser le musicien et poète américain Bob Dylan, légende du folk, pour, je cite, avoir créé dans le cadre de la grande tradition de la musique américaine de nouveaux modes d'expression poétique. Bonjour Antoine Compagnon.
Bonjour.
Vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de littérature française moderne. S'agit-il d'une bonne idée de récompenser un homme qu'on connaissait comme chanteur, dont on connaissait les textes, mais des textes qui s'accompagnent de musique? S'agit-il d'une bonne idée de lui donner le prix Nobel de littérature?
Écoutez, il y a le pour et le contre. Pour les gens de ma génération, c'est assez satisfaisant. J'ai été élevé avec Bob Dylan, je connais toutes ses chansons par cœur. C'est un peu comme un frère aîné ou un cousin, donc bon, il y a un certain plaisir. Et puis il faut dire qu'il a été tout à fait canonisé dans la littérature américaine. Il est considéré comme un poète. Il y a un très grand livre du critique Christopher Rix, qui a été professeur de poésie à Oxford, et qui est aujourd'hui aux États-Unis, qui a consacré donc un ouvrage à Bob Dylan, poète, et qui le prend tout à fait au sérieux. Son archive a été achetée par une université américaine, donc il y a un fonds Bob Dylan et il y a des travaux académiques sur Bob Dylan comme sur tous les grands poètes. Donc il y a le pour, évidemment, et je regardais ce matin le titre du New York Times, tout de même, ils l'appellent une voix américaine authentique. Ils prennent, on peut pas dire que c'est un écrivain, mais c'est une voix, et c'est certainement la voix d'un poète.
Mais c'est ça le problème, puisque vous êtes, Antoine Compagnon, un amoureux de la littérature, vous êtes aussi universitaire, puisque vous êtes professeur au Collège de France. Et si l'on avait donné, par exemple, le prix Nobel d'économie à quelqu'un qui ne faisait pas d'économie, j'imagine que les économistes n'auraient pas été contents. Est-ce que ça n'est pas exactement ce qu'on a fait avec Bob Dylan?
La définition de la littérature a beaucoup bougé au cours des temps, au cours des siècles. Bon, on peut se rappeler que le premier prix Nobel, c'est Sully Prudhomme. Donc c'est une certaine poésie relativement populaire. Donc je crois qu'il y a rien contre la popularité de cette littérature. Bon, la définition des lettres évolue. Bon, c'est pas cet aspect-là qui me paraît gênant. Je pense que Bob Dylan, oui, fait partie de la culture littéraire. On travaille sur lui. Bon, ce qui peut être un peu plus, inquiétant, c'est qu'à mon sens, ce n'est pas un prix Nobel qui favorise la lecture. Or, la lecture doit être défendue aujourd'hui. Bon, la lecture, c'est pas qu'elle se porte mal. On lit beaucoup sur écran, mais lit-on encore de la poésie? Il se trouve que hier soir, j'étais dans une librairie pour un débat et juste en face de moi, il y avait encore les livres d'Alexievitch, prix Nobel de l'an dernier.
La lauréate de l'an dernier, qui a donc une écriture polyphonique. Ça n'est pas de la fiction. Et là aussi, c'était donc une lauréate distinguée, alors même qu'on ne peut pas dire qu'elle écrit de la littérature au sens où Claude Simon, par exemple, autre lauréat du prix Nobel, en écrit.
Non, mais le prix Nobel a été donné à Bergson à un moment, à Bertrand Russell. Il y a eu tout de même beaucoup de variétés dans ce prix. Moi, j'ai été très heureux quand il a été donné à Le Clésio ou à Modiano, puisqu'il y a eu des prix Nobel, et à Claude Simon, des prix Nobel français tout à fait intéressants. Mais il est vrai que ce sont des auteurs qui sont beaucoup moins traduits et beaucoup moins répandu globalement que Bob Dylan.
En tout cas, à la remise hier, on entend des applaudissements timides.
Prix Nobel de littérature,
Bob Dylan.
Comme vous l'avez dit, Antoine Compagnon, dans votre leçon inaugurale au Collège de France, c'était en 2006, les noces de la littérature et de la modernité, avez-vous dit donc, n'ont jamais cessé d'être batailleuses. Est-ce que ça fait partie justement de ces noces difficiles, de cette vie de ménage qui n'est pas toujours évidente?
Écoutez, il me semble pas. Enfin, il se trouve que par mon âge, par mes fréquentations, je connais un certain nombre des membres de cette académie suédoise, donc de ce jury. Bon, ce sont des gens qui ont à peu près mon âge, donc ce ne sont pas des jeunes gens. J'ai l'impression qu'ils se sont fait plaisir. Ils se sont fait plaisir en donnant le prix.
C'est pas ce qu'on leur demande sans leur manquer de respect. Ils sont pas là pour se faire plaisir.
Ben, je crois qu'ils se font toujours un peu plaisir. Ils donnent le prix à un auteur ou à, qui leur plaît, qui les séduit. Je crois que c'est ce qu'ils ont fait toutes ces années. Et bon, s'ils ont mon âge, Bob Dylan, c'est vraiment leur culture. C'est vraiment donner le prix à un auteur qui leur est totalement familier, qui fait partie de leur paysage. Puis alors, il faut peut-être ajouter que si vous voulez le donner à un Américain, c'était une façon d'éviter ceux dont on parle depuis des années et dont on voudrait bien aussi.
Mais justement, puisque donc je veux pas trop dévoiler mes goûts, mais enfin, on se dit quand même que c'est beaucoup de contorsion pour ne pas le donner à Philip Roth.
Alors, moi, je dois dire que je suis un amateur de Philip Roth depuis très longtemps. Je le lis volontiers. Et bon, il y a de Lilo, il y a un certain nombre d'autres grands auteurs américains qui.
Mais eux font de la littérature, par exemple, incontestablement.
Absolument, absolument. Bon, il y a peut-être une crise de jeunisme dans cette académie suédoise. Bon, ils ont voulu faire un pas de côté. Ils en ont déjà fait d'autres, puisqu'Alexievitch, c'était aussi un pas de côté par rapport à une sorte de grand courant littéraire. Mais au fond, ça ne me choque pas qu'on veuille montrer que la littérature est plus large que sa définition scolaire ou canonique. Dylan, c'est un élargissement du canon.
Mais derrière tout cela, est-ce qu'il n'y a pas finalement également une charge contre la fiction ? Je ne parle pas d'une charge consciente. Je ne pense pas que l'Académie Nobel ait décidé d'accorder ce prix à Bob Dylan en se disant « on va montrer ainsi qu'on s'éloigne de la fiction ». Mais de plus en plus, la fiction n'est peut-être pas appréciée à sa juste valeur en matière littéraire, Antoine Compagnon.
Écoutez, moi, je penserais plutôt à la poésie. J'ai pas regardé la liste des prix Nobel, mais depuis quand ne l'a-t-on pas donné à un poète, hein ? Bon, nous avions un grand poète, Yves Bonnefoy, disparu il y a quelques mois. Bon, il n'a pas eu le prix Nobel. Il aurait pu, hein. Ce sont, en effet, les trois derniers prix Nobel français. Ce sont des auteurs de romans, hein, de prose. Moi, je pense qu'ils ont consacré beaucoup de romanciers dans la dernière période. Pamuk, Vargas Llosa, il y a quelques années, il y a eu de grands romans. Donc, on peut pas vraiment faire ce grief. En revanche, c'est plutôt la poésie qui se porte pas très bien aujourd'hui dans nos langues. Et là, il y avait des possibilités de poètes, hein, que ce soit américains ou autres.
À qui pensez-vous?
Comment ?
Je vais vous faire dire des noms, évidemment, Antoine Compagnon.
Il me semble qu'on a un petit peu parlé d'Adonis par moment. Il y a de grands poètes en ce monde. Bon, on peut pas oublier non plus que on l'a vu dans les dernières années de ces prix Nobel, une sorte de, je dirais pas de correction politique, mais de souci d'être peut-être dans l'air du temps politique. Au fond, ça me fait assez plaisir qu'il donne le prix Nobel à Bob Dylan, alors qu'on ne fait que parler de Donald Trump. C'est ça qui représente l'Amérique aujourd'hui dans le monde. Bob Dylan, c'est un assez bon contrepoids à ce que peut représenter Donald Trump dans le monde.
Alors, puisque vous évoquez la poésie et la manière dont celle-ci est appréciée ou peut-être reléguée, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'un des viatiques favori pour la poésie, c'est la chanson. On écoute Léo Ferré chantant, un poète qui vous est cher, Antoine Compagnon.
Je suis belle au mortel comme un rêve de pierre, et mon sein où chacun s'est meurtri tour à tour. Est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet, ainsi que la matière.
C'était en 1967, poètes. Ferré chantait Baudelaire. La beauté, et là aussi on se dit finalement qu'un grand nombre de poètes sont devenus très populaires grâce à la mise en musique de leurs œuvres. On peut penser à Aragon, on a l'exemple avec Baudelaire ou avec Rimbaud. Qu'est-ce que ça signifie, Antoine Compagnon ?
Ah ben, ça signifie qu'il y a évidemment un rapport entre la poésie et la chanson, hein, qui est de tout temps. C'est pour ça qu'on ne peut pas être... On ne peut pas être hostile à ce prix Nobel. Il n'y a aucune raison. Bob Dylan est un poète. La poésie est liée à la chanson. Bon, moi, ça me donne un petit regret que Gainsbourg n'ait pas eu le prix Nobel.
Vraiment,
que,
Gainsbourg, pour vous?
Moi, j'ai adoré Gainsbourg. Je suis passé au fond de Bob Dylan à Gainsbourg. Bon, j'ai passé une partie de mon enfance aux États-Unis, les années Dylan. Puis je suis arrivé en France et c'était Gainsbourg.
Mais quel texte, par exemple, de Gainsbourg? Parce que Gainsbourg a beaucoup écrit.
Ben, celui des années 66. Hein, C'est-à-dire,
la javanaise.
Un peu après la javanaise. Lola, quand mon 635 me fait des yeux doux. Enfin, c'est cette période-là. Bon, moi,
Et pour vous, ce peut être qualifié de poésie?
Gainsbourg, oui. Oui. Je crois que c'est de la poésie. Je crois que la chanson est très souvent de la poésie.
Mais alors, pourquoi l'accompagner dans ce cas-là par de la musique? Qu'est-ce qui distingue, dans ces conditions, selon vous, Antoine Compagnon, un grand chanteur d'un grand écrivain ou d'un romancier?
Aragon, que vous citiez, a écrit des textes pour la chanson. Donc ce n'est pas du tout incompatible. Bon, comme on dit, Bob Dylan, c'est un lyriciste. Il a écrit des chansons et il en a écrit la musique. Mais bon, ça fait partie de la littérature. Ce n'est pas choquant. Je vous dis, le point qui me gêne, c'est que ça ne fera pas vendre des livres.
Et si l'on reprend la question traditionnelle, la question sartrienne, que peut la littérature? Si l'on se met donc justement à distinguer d'autres formes de littérature, qu'est-ce qui va advenir? Que va-t-il y avoir comme futur pour la fiction traditionnelle, les romans, Antoine Compagnon, selon vous? Est-ce que c'est une forme qui est condamnée à évoluer? On dit depuis des années que la mort du roman est imminente, que nous sommes en train de la vivre. C'est, selon vous, une sorte de pont aux ânes de la critique littéraire. Qu'en est-il aujourd'hui?
Je n'ai pas de crainte pour l'avenir du roman. Je crois que nous aimons toujours les histoires. Nous avons besoin de... Quand je me plonge dans un roman, je suis heureux. Et je crois que nous sommes tous comme ça depuis la petite enfance. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de crainte à avoir pour l'avenir du roman. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de crainte à avoir pour l'avenir du roman en langue française et dans ce pays et dans la francophonie. Il y a une belle littérature. Tous ceux qui parlent de la mort du roman manquent vraiment de perspective. Quand on prend n'importe quelle année du 19e ou du 20e siècle, il n'y a pas eu plus de grands romans. Il y en a un de temps en temps, et je crois que nous n'avons absolument pas à nous plaindre de l'état ni du roman, ni de la littérature française aujourd'hui.
Alors si on n'a pas à se plaindre de cela, on constate en tout cas une évolution, et une évolution aussi de ce qui confère sa valeur à la littérature. Vous êtes beaucoup penché là-dessus, Antoine Compagnon, sur la notion de valeur en littérature. Cela, ça évolue évidemment.
Bon, peut-être que là où nous ne savons pas où nous allons, c'est ce que sera l'incidence du monde numérique dans lequel nous vivons sur le roman. Et ça, nous n'avons pas encore véritablement vu les effets de cette révolution. Au fond, les romans qui sont publiés, par exemple ceux qui sont en piste pour les prix, on va entrer dans cette fatidique saison des prix à Paris, bon, cela reste des romans sur lesquels l'effet du numérique n'est pas encore véritablement palpable. Mais nous ne savons pas du tout comment pensent les générations de ceux qui sont nés dans dans le numérique et comment ils vont se mettre à faire de la littérature. Et là, on va avoir des choses tout à fait originales.
Mais à contrario, il y a aussi une nostalgie pour une certaine forme de prose. Si on en juge, par exemple, avec la correspondance de François Mitterrand avec Anne Pinjot, où là, on a vraiment affaire à un échange épistolaire extrêmement classique, je veux dire, dans sa facture. Et évidemment, ça n'est pas une critique. On voit qu'il y a une sorte de nostalgie, peut-être de nostalgie pour l'absolu littéraire, comme l'aurait dit George Steiner. Est-ce que ça n'est pas là aussi révélateur? Tout simplement, peut-être que l'on construit des goûts qui ne sont pas finalement les goûts que le public attend en donnant à un chanteur un prix Nobel de littérature, Antoine Compagnon.
Alors, le livre de François Mitterrand, c'est un objet très intéressant. Mais alors là, on voit bien aussi la génération à laquelle il appartenait, marquée. C'est un livre-objet. Et c'est un livre-objet, au fond, dans une certaine tradition surréaliste. C'est très intéressant de voir qu'un homme politique... Bon, on a toujours dit que Mitterrand était littéraire, avait une culture littéraire et un goût littéraire.
Mais jusqu'ici, est-ce que vous aviez lu des textes littéraires de Mitterrand? On sait évidemment qu'il a écrit...
Je savais qu'il écrivait bien. Je savais que...
Dans les textes politiques qu'il a écrits, peut-être qu'au Panthéon des lettres politiques, il sera en deçà du général de Gaulle ou d'autres politiques qui ont écrit, ou Léon Blum. C'est peut-être finalement le premier texte littéraire, Antoine Compagnon, qu'on a de François Mitterrand.
Oui, c'est-à-dire le coup d'État permanent a sa place dans la tradition du pamphlet, dans la belle tradition du pamphlet français. Mais là, on a un objet qui est véritablement un objet littéraire, et c'est assez déconcertant de la part d'un homme politique qui avait une telle activité dans ces années-là. Bon, c'était un peu tout de même une parenthèse de sa vie politique, ces années 60, mais tout de même, il était candidat à la présidence de la République en 1965, alors qu'il avait cette sorte d'autre vie littéraire. Mais c'est très intéressant de voir que, lorsqu'on dit que les hommes politiques français, très longtemps, ont eu cette culture littéraire, on en a là une magnifique preuve.
Antoine Compagnon, vous qui vous êtes beaucoup intéressé aux anti-modernes, j'ai une autre hypothèse à vous soumettre. Et si Bob Dylan avait été distingué parce qu'il a son destin extrêmement associé à une tradition de gauche américaine, tandis que d'autres écrivains tels que Roth ou tels que Kundera, parce qu'on pourrait penser aussi à lui, après tout, n'ont pas eu la chance pour l'instant, en tout cas, d'avoir le prix Nobel de littérature parce qu'ils sont considérés comme étant trop conservateurs, trop réactionnaires?
Il me semble que c'est en effet un élément qui joue dans les décisions du prix Nobel en ce moment, et c'est pourquoi moi je suis assez bienveillant à l'égard de ce prix Nobel. Je vous le disais, nous sommes dans un contexte de droitisation générale de la vie intellectuelle et politique, et donc le donner à quelqu'un qui s'est battu contre la guerre du Vietnam, qui a eu une assez grande cohérence politique dans ces années-là, pour les droits civiques dans les années 60, je trouve ça plutôt bienvenu.
Vous voyez, vous avez encore du travail à faire sur les anti-modernes. Merci Antoine Compagnon. C'est qui Anne-Laure Chouin?
Je dirais Bob Dylan, mais au hasard.
Oh, mais comment vous avez fait pour deviner? Allez, il est 8h sur France Culture.